Salut à tous et bienvenue dans cette émission, le podcast Coup Franc. La saison a commencé pour les Girondins, c'était ce week-end du côté du Stade Atlantique face au club d'Avranches. Un match nul 0-0 pour les joueurs de Bruno Hirles, loin d'être convaincant, même poussif. On va en parler avec les débriefeurs qui nous feront notamment leur top et leur flop sur ce match. Le système en 3-4-3 utilisé par Bruno Hirles est-il le bon pour la saison ? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Là aussi, débat avec les débriefeurs. Et puis, l'effectif, il est figé pour l'instant, tant que les départs d'Étienne Begré et de Yanis Mergi ne sont pas faits. Faut-il recruter ? Et à quel poste ? On va demander à nos amis, les chroniqueurs. Et puis enfin, on terminera cette émission par la nouvelle réception à Bordeaux, de Granville, pour les Girondins de Bordeaux. C'est le prochain adversaire du côté du Stade Atlantique. Il faudra absolument gagner. Évidemment, on essaiera de se projeter avec les débriefeurs. Bienvenue dans votre émission Coup Franc. C'est le premier épisode de cette saison 2025-2026. C'est parti.
Et c'est le 3-0. C'est exceptionnel.
Coup Franc, le podcast 100% débat sur les Girondins de Bordeaux.
Lilian Lascande, mais Marseille KO.
Une création forever. Un épisode arbitré par Julien B.
Trois débriefeurs sont avec vous pour démarrer cette nouvelle saison sur foreverlaradio.fr, sur les plateformes en ligne de podcast dans cette émission Coup Franc. On va les saluer et on va savoir s'ils ont passé un bon été ou pas avec Hélène. Salut Hélène, comment ça va ?
Salut à toutes et tous, et bien, ma foi, ça va très bien. Très bien.
T'as passé un bon été ?
Oui, excellent.
T'as pu couper un peu des Girondins ? Tout en regardant un
oui
petit peu.
Oui, je regarde toujours avec un œil sympathique toujours.
Super. On est également avec Cyril. Salut Cyril.
Salut Julien. Salut tout le monde.
Est-ce que toi aussi t'as pu un peu couper ou t'es resté à fond sur l'actualité des Girondins ?
Je suis toujours en vacances et j'ai coupé. Je me suis remis avec le petit podcast que vous avez fait avec Johan.
Ah ben très bien. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas écouté, il est encore en ligne et vous pouvez en apprendre plus sur l'effectif de cette saison ainsi que sur les adversaires potentiels des Girondins, enfin pas potentiels, les adversaires des Girondins pour la saison dans cette poule A de National 2. Et enfin, Sébastien est également avec nous. Salut Seb.
Salut Julien, salut Hélène, salut Cyril et bonjour tout le monde.
Bon, toi aussi, t'as pu te reposer ou t'es resté focus sur les Girondins pendant l'été ?
Non, mais c'est interminable. On a fini quand la saison ? Fin mai. Oh, ouais. C'est
après,
interminable.
On a passé le tribunal de commerce, puis après, on a passé la DNCG, puis après, on a commencé à faire le recrutement. Finalement, on s'est pas posé. Hein.
On s'est pas posé. Enfin,
moi,
on a eu des choses, oui.
Bah,
contre, ça nous change de l'année dernière où on n'avait rien eu jusqu'à début septembre quasiment, ou avant de voir un match des Girondins. Là, on a eu une vraie prépa, on a eu quand même un vrai recrutement, un vrai mercato. Et puis, comme l'a dit Cyril, on a pu suivre un petit peu ce qui s'est passé dans le podcast avec avec Johan pour nous mettre un petit peu à jour. Mais c'est vrai que c'était long. Ouais, ça m'a. Heureusement qu'il y a eu d'autres choses pour s'occuper un petit peu, du tennis, du vélo, la Coupe du Monde des clubs. Il y a eu des trucs quand même sympas pour s'occuper entre temps. Mais c'est long, 3 mois.
Ouais, c'est long. C'est long, effectivement, même s'il y a toujours eu une petite actu qui est sortie par-ci par-là. Gérard Lopez, on a eu John Williams, on a eu Begré, on a eu des choses. On en a eu. Et on en aura
et
encore.
Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini. On en aura encore à dire, notamment dans cette émission. Justement, démarrons, les amis, par le premier match, puisque Bordeaux, ça y est, a joué son premier match. Le retour au Stade Atlantique avec les supporters, une belle ferveur, quasiment 12 000 personnes. Pour ce match et cette entrée face à Avranches. Alors, évidemment, une entrée, ça veut dire que la préparation est dans les jambes. On pouvait parler aussi de la chaleur. Le match avait été décalé à 21h, justement, en raison de la grosse chaleur qu'il y avait sur la Gironde, même si finalement, il a fait un petit peu moins chaud que ce qui était prévu. Et puis, il y a eu cette pelouse qui est malade, qui a un champignon. Et donc, on a eu droit, c'est vrai, une pelouse très, très limite du côté du Stade Atlantique. Mais Hélène, c'est vrai qu'on attendait mieux quand même de nos Girondins de Bordeaux qui ont fait une entrée poussive 0-0 face à Avranches. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce premier match de la saison ?
Alors moi, j'ai retenu 15 premières minutes bien, une bonne pression sur l'adversaire. Et puis au fil de la rencontre, de la fatigue, des difficultés, alors sans doute liées aux chaleurs qui ont handicapé un peu leur physique et leur préparation physique. Et puis cette pelouse, évidemment, mais la pelouse, elle était là pour les deux équipes, donc il faut pas trop se cacher là derrière. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de leaders techniques. J'ai trouvé que c'était une équipe en rodage, malgré les ambitions affichées du club et du staff. Une équipe qui veut soi-disant tout gagner et tout démonter, ben, il faut qu'elle nous montre un peu plus quand même. J'ai trouvé qu'elles étaient empruntées, ces deux équipes, et que Bordeaux ne savait pas trop se servir du schéma de jeu de Irles, qui a eu le courage quand même de le réitérer cette fois-ci. Pas de connexion. Bon, est-ce que j'espère que ça va se détendre et que ça va se faire petit à petit, parce que sinon, j'ai peur qu'on aille droit au mur, quoi. Si Bordeaux ne trouve pas des automatismes, j'ai trouvé que oui, qu'ils se regardaient un peu jouer sans sortir vraiment leur jeu. Mais les deux équipes, hein, toutes les deux étaient un petit peu empruntées. Voilà, j'ai trouvé que c'était emprunté tout ça.
Ouais, alors c'est vrai que du côté des Girondins de Bordeaux, tu l'as dit, Bono Arles avait mis en place son système en 3-4-3, hein, qu'il a l'air de vouloir vraiment absolument mettre dans cette saison. On va en parler tout à l'heure, puisqu'on va se demander si vraiment c'est le bon pour la saison, ce système. On parlera également des individualités avec les tops et les flops. Mais Cyril, même question que pour Hélène, cette entrée poussive face à Avranches, est-ce qu'elle t'inquiète ou parce que, comme on disait il y a quelques instants, avec toutes les données qui ont été sur ce match, tu te dis, bon, de toute façon, on ne peut que aller vers le meilleur, donc ça ne m'inquiète pas.
Je sais pas en fait. Alors, je suis mi-figue, mi-raisin. Je suis. Il y a le passé qui me rappelle et qui me dit que ce début est inquiétant. Et après, la raison fait que je me dis, ben, il y a la préparation, un nouveau système, 11, 12 nouveaux joueurs sur un groupe de 15. Il y a tout ça qui fait qu'on peut penser que ça va aller mieux. Mais après, quand on voit le match, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui allaient pas, qui allaient vraiment pas. Les connexions, je suis pas sûr que les profils s'emboîtent à un moment donné. Je l'espère. Je l'espère. Après, il y a beaucoup de blessés aussi encore. Je sais pas trop quoi penser. Alors moi, je suis pas un supporter optimiste, donc j'ai plutôt envie de te dire, à l'heure actuelle, je suis plutôt inquiet. Seb, ça sera le côté optimiste tout à l'heure. Ce qui me fait peur, ce qui me fait vraiment peur en fait, c'est que j'ai l'impression de revoir la deuxième année de Ligue 2, c'est-à-dire avec une direction sportive qui s'est emballée, qui a peut-être trop changé de choses. On parlera tout à l'heure après de la tactique de Bruno Irles, donc je ne vais pas en parler. Mais ouais, là, en sortant du match, l'été, avec le recul, je le suis un peu moins.
C'est vrai que tu l'as dit, il y avait des blessés. On peut parler notamment de Bahassa, de Manaï, qui sont pas là, ou encore de Najib Cissé, qui sont. Alors, il y a deux recrues sur les trois. Et puis, Soufiane Bahassa, on sait, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur de la saison dernière, qui est en train de revenir petit à petit. Il pourrait revenir à la compétition, peut-être à Châteaubriant, voir le premier match de septembre. On verra. Mais en tout cas, il est en phase de reprise, Soufiane Bahassa. Mais il manquait, tu as raison. Et puis surtout, l'absence de Jean Griot, qui était suspendu. Lui en défense, là aussi on a pu découvrir certains joueurs et notamment Jousselin qui n'était pas forcément à son poste puisque lui qui est plutôt un latéral ou un piston a joué en défense centrale dans ce système à 3. Là aussi on y reviendra si vous le voulez dans quelques instants. Sébastien, toi tu étais au stade, je crois que Cyril aussi d'ailleurs, mais tu étais au stade dans le virage sud, la reprise, il y avait beaucoup d'ambiance. Est-ce que tu as quand même pu voir quelque chose de ce match ou tu étais trop happé par l'ambiance du stade?
Bon, alors déjà, oui, tu fais bien de le préciser, pour les gens qui l'ont pas vu et qui n'y étaient pas, 12 000 personnes pour un Bordeaux-Avranches première journée de championnat de National 2. On tombe pas de la chaise parce qu'on est sur la moyenne de l'année dernière qui était entre 10 et 15 000 à peu près, suivant les affiches. Mais c'était quand même une grosse ambiance, un gros match. Franchement, c'était une superbe reprise, je parle au niveau des tribunes. Il n'y a pas eu de voilà, il y a rien eu de spécial à signaler, à commenter. Je pense que ça devait être assez sympa. Je parle en termes d'ambiance. Après, oui. De ce qu'on a vu sur le terrain, c'est autre chose.
Voilà, en termes d'ambiance, c'était bien.
Voilà,
mais c'est
en
tout.
En termes d'ambiance, c'était bien et ça sera comme ça sûrement tout le long de la saison. Avec quand même en plus cette année, moi, je voilà, la présence de Bayonne, ça rajoute un petit, ça va rajouter un petit, voilà, un petit, sans parler de voilà, c'est au moins une affiche, c'est à minima une affiche régionale, donc ça va rajouter peut-être un petit truc. La présence de la réserve de Lorient aussi, ça peut être sympa. Donc il va y avoir encore comme ça plein de belles ambiances cette saison. Et alors après, Cyril a raison, d'habitude, il a tendance à noircir un peu le tableau, et moi, j'ai peut-être des fois tendance à trop le...
L'embellir.
Comment dire ? À trop l'embellir. Mmh. Alors, sans parler d'embellir, je vais essayer d'être un petit peu plus modéré, mais sans être vraiment... Parce que je suis un peu comme Cyril, et ce qu'il a dit, ça m'a un peu sauté à l'esprit, parce que je me suis fait la même réflexion par rapport à la deuxième saison de Ligue 2. Je me suis dit, j'espère, si on reprend un peu les schémas, première saison de Ligue 2, tu rates la montée de que dalle, de 1 point et 1 but. C'est-à-dire que tu gagnes 1-0 à Annecy, tu es en Ligue 2. Bon, donc de peau, tu perds 1-0 et derrière,
on sait
ce qui s'est passé avec, en Ligue 1, pardon. Et on sait ce qui se passe avec Rodez. L'année dernière, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu rates la montée quand tu vois la prépa et in fine de pas grand-chose. C'est-à-dire que si tu te dis qu'est-ce qui se serait passé si avec ce même groupe, cette même équipe l'année dernière, on avait commencé comme tout le monde, avec une prépa physique, une prépa des matchs amicaux, une prépa tactique et à la première journée. Peut-être qu'on serait monté, on le rate de pas grand-chose non plus l'an dernier. Et du coup, cette année, je suis comme Cyril à me dire est-ce qu'on va pas reproduire la même chose que la deuxième année de Ligue 2. C'est juste une intuition, une impression. C'est basé sur rien de c'est basé sur rien de concret. Et puis il y a quand même on l'a dit, il y a quand même des choses qui nous permettent d'espérer qu'il y ait une embellie, notamment devant, parce que très franchement, on peut pas dire qu'on était mis en danger par cette équipe d'Avranches. Il y a leur numéro, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais il y a leur numéro 7 devant qui nous a pas mal bougé, ça a été le plus remuant, le plus virulent, je trouve, qui a été plutôt bien, mais je veux dire, en dehors de ce garçon, on peut pas dire qu'on ait pris l'eau, je sais même pas si notre gardien, il a vraiment un gros arrêt à faire.
Il y a si, en première mi-temps, dans les 20 premières minutes, il fait un énorme arrêt, où il va dans les pieds
voilà, il y a les 15 premières minutes, où ils nous ont un petit peu, puis après, on a très vite mis le pied sur le ballon. Moi, ce qui m'inquiète un peu le plus, c'est devant. On en parlera tout à l'heure dans les tops, dans les flops et tout ça. Voilà, le retour de Bahassa va faire du bien, mais attention, Julien, le retour de Bahassa, on ne sait pas à quel niveau il va revenir, déjà. Est-ce qu'il sera à son niveau de Bahassa qu'on a vu de décembre à juin, qui était très bon ? Est-ce qu'il va revenir dans le même état ? On ne sait pas. Est-ce que ça va prendre avec les deux de devant ? On ne sait pas. Est-ce que ça va... Voilà, il y a plein de bémols. Autant Griot, j'ai pas d'inquiétude. Derrière, c'est franchement, je pense que s'il y a un secteur où on n'a pas trop de soucis à se faire, c'est en défense. Ouais. Moi, c'est devant. Dans l'animation offensive, c'est là où j'ai une petite réserve. Voilà, je me demande si on n'est pas un peu léger pour l'instant. Alors après, à voir. Hein, La période pour recruter n'est pas terminée. Donc,
aussi, on va en parler parce qu'effectivement, l'effectif est pour l'instant figé. Hein, Bruno Herles nous l'a dit à la fin du match. Mais évidemment, s'il y a des départs, notamment soit Mergi, soit Beugré, ça pourrait libérer des éventuelles arrivées. Parce qu'on rappelle quand même que Beugré, qui prend 10 000 euros par mois, forcément, ça, s'il venait à partir, ça pourrait libérer de la masse salariale. Mais on n'en est pas là. Okay,
on est d'accord que s'il reste, ils joueront du coup.
Bruno Herles a dit en début de saison, si dans la fenêtre, ils ne sont pas partis, on les réintégrera. Maintenant, il faut voir si vraiment il va le faire. Ça, c'est la grosse question. Parce que, par exemple, Mergi, il a été un petit peu intégré aux entraînements en début de saison. Et puis là, on ne le voit plus du tout. Donc, Bruno Herles a dit clairement, on attend qu'ils partent. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment les réintégrer ? Ça, c'est pas sûr du tout. Donc, mais je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les enseignements de cette première journée. Évidemment, il y avait toutes les données qu'on a dit, notamment la pelouse, notamment le manque d'automatisme. D'ailleurs, les joueurs l'ont dit à la fin du match qu'il y avait des manques d'automatisme. Mais moi, ce que j'ai un peu regretté et ce qui m'inquiète un peu, c'est le manque peut-être d'allant, le manque d'investissement peut-être aussi parce que je suis désolé, mais il y a des joueurs qui sont là et certains, je les ai commentés la saison dernière. C'est le cas de Mathieu Villette. Moi, Mathieu Villette, je l'ai commenté deux fois l'année dernière. Deux fois, je me suis dit, ce joueur, j'aimerais bien le voir à Bordeaux. Bah, là, je n'ai pas retrouvé le Mathieu Villette que j'ai vu sur les deux confrontations. Donc, est-ce que le maillot est trop lourd ? Là aussi, Bruno Herles m'a dit en conférence de presse non. Mais je mets un gros doute parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit des joueurs à l'extérieur dire « Il serait bien à Bordeaux ». Et puis, quand ils arrivent à Bordeaux, après, ce n'est plus les mêmes joueurs. Donc, c'est que le début de saison,
si
évidemment. C'est que le début de saison. Donc, on va attendre un peu. On ne va pas les juger sur pièce. Mais moi, j'attendais tout de suite là. J'attendais tout de suite de montrer que ces joueurs-là nous montrent qu'ils avaient la possibilité de nous amener sur le haut du tableau. Et j'ai été un petit peu déçu. Alors, effectivement, il ne faut pas oublier que dans l'analyse, il y a tous ces facteurs qui étaient aussi un peu spéciaux. Oui, Sébastien.
Si je peux juste faire remettre sur Mathieu Villette, mais on y reviendra peut-être après. Tu l'as commenté deux fois, et nous, on l'a vu aussi deux fois. Mais on l'a vu face à une équipe de Bordeaux qui n'était pas un bloc bas à 10 derrière. On l'a vu, tu vois ce que je veux dire ? Là, on est tombé sur une équipe qui a passé les trois quarts de son temps à défendre.
Oui, mais on va sûrement tomber souvent sur des équipes comme ça. Et on est tombé sur des équipes comme ça les dernières aussi. Donc, ça veut dire que le choix n'est pas judicieux, alors, tu vois, d'avoir pris un joueur comme ça, puisqu'on sait qu'on va tomber contre des équipes qui vont te regrouper face à nous, tu vois ? Donc
Moi, c'est ce que je crains un peu cette saison, malheureusement, c'est qu'on tombe sur plus que l'an dernier. Tu vois.
Moi, tu vois, j'attendais que Mathieu Villette, alors on va en parler dans les tops et les flops, enfin moi personnellement je ne voulais pas dans les flops, c'est pas un flop Mathieu Villette sur ce match, mais j'attendais plus par rapport à ce que j'avais vu la saison dernière. Donc en fait c'est ça, moi j'attends plus d'investissement de ces joueurs, et Tondé j'attends plus de lui, j'attends plus collectivement surtout parce que j'ai trouvé que cette équipe elle a manqué de lien, et c'est ce que va devoir réussir à créer Bruno Herles. Encore une fois, le lien, la création technique, etc., ça vient aussi sur le long terme, peut-être, mais nous, on n'a pas trop le temps. Il faut qu'on marque des points rapidement, et donc il va falloir qu'on arrive à trouver les solutions rapides pour créer du lien dans cette équipe. Et notamment, un joueur comme Guillaume Audru pourrait être ce joueur clé. Voilà pour les enseignements de ce match. Alors évidemment, j'ai commencé un petit peu de parler des individualités. Pardon, Cyril, je suppose que toi, tu vas pouvoir me trouver quelques flops et quelques tops dans ce match. Tu commences par ce que tu veux, puisqu'il y avait eu 0-0. Il n'y a pas de plus que ça de négativité ou de positivisme à mettre en avant.
Moi, j'ai des mini-flops et des mini-tops. Voilà, donc,
ça correspond au match.
Voilà, en mini flop, en déception, je vais dire, ceux qui m'ont un petit peu déçu, ben, j'ai l'association Jousselin Openda. J'ai senti qu'il y avait beaucoup d'espace dans le dos d'Openda notamment, et que Terrien a réussi à en profiter. On a été mis en mal. Après, voilà. C'est des petits réglages.
Typiquement, on avait deux joueurs qui n'étaient pas à leur poste.
Voilà, en plus. Et ça s'est senti sur ce match-là. Mmh. Et donc dans cette zone-là, on a été en difficulté. C'est là que Avranches a appuyé. Après voilà. Est-ce que Chamal, moi, ça m'a pas forcément plu. Je l'ai trouvé beaucoup trop éloigné de Audru. Mais c'est les consignes de Dirles dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment adapté à ce niveau-là? J'ai trouvé que la position de Chamal m'a un petit peu chagriné. Et puis Adama Diop, que j'ai trouvé pareil. Je sais pas le rôle d'Adama Diop. Audru, je l'ai compris. J'ai compris ce qu'il devait faire. Alors, il a été mis en difficulté par la pelouse, par les conditions. Mais j'ai vu ce qu'il va apporter. Adama Diop, à la récupération, ce n'est pas vraiment un récupérateur. Ce n'est pas vraiment un box-to-box. Je ne l'ai pas trouvé forcément bien en complicité avec Audru.
Alors pourtant, donc, le club nous le vend comme un box-to-box. Hein, donc,
Je ne l'ai pas vu ça. Après, c'est des joueurs que je ne connais pas, que j'ai découvert samedi. Et encore une fois, c'est juste un match sur une sortie de reprise, sur un terrain où il y a un champignon qui était sûrement horrible à jouer, une chaleur. Donc c'était les conditions vraiment.
Et Avranches qui jouait en 3-6-1 un peu. Donc au milieu de terrain, on était clairement en déficit par rapport à eux sur le milieu de terrain.
Avranches, ils étaient plus proches du 5-4-1.
Oui, non, mais ça dépend.
C'était vraiment très, très bon.
Ouais, c'est vrai.
Il y a des schémas tactiques, ça devrait être interdit, franchement. 3-6-1.
Non, mais si tu veux, il mettait des ballons pour Seydi et Seydi partait dans le dos, etc. Mais c'est vrai que le milieu de terrain, ils étaient beaucoup plus fournis que nous. Et nous, avec Diop et Audru, c'était, c'était, il y avait pas de lien quoi. Et puis effectivement Diop, moi de ce que j'avais vu aux entraînements, quand j'y suis allé une ou deux fois, et puis j'ai vu aussi en match l'autre jour à Tarnos. Bon, ben là, je ne l'ai pas vu face à Avranches. Je n'ai pas vu Diop faire ce qu'il avait fait face à Arcachon ou face à Bayonne en match de préparation. Donc, bon, comme on a dit, il y a plusieurs facteurs qui font que c'était compliqué ce match-là. Et vous l'avez dit, et ça, c'est vrai, pour moi, la pelouse a été catastrophique. Et je pense qu'au milieu de terrain, ça nous a énormément gênés. Bien, tu as fait le tour ? Top et flop.
Après en top, vite fait, j'ai Extra, j'ai vraiment. Ouais. Il a eu deux interventions à faire, mais bien. Après Vanden Abil, le capitaine, enfin vraiment le mec d'expérience qui a géré la profondeur et qui a. Moi j'ai bien aimé ça. C'était rassurant derrière. Et puis après, moi j'aime beaucoup ce qu'a proposé. Enfin, beaucoup, non, pas beaucoup. Mais ce que j'entrevois et ce que je peux. Imaginez de ce que va devenir le milieu terrain, j'imagine bien Audru. J'ai trouvé qu'il avait de beaux contrôles de balles, une belle orientation du corps, il est toujours à chercher le jeu vers l'avant. Donc ça m'a plutôt plu. Après, malheureusement, mais les conditions ne l'ont pas avantagé.
Hélène, tes top et tes flops sur ce match ?
Alors, ben moi, un peu comme les garçons, j'ai pas vraiment top, pas vraiment flop. Bon, si, évidemment, Extra, qui a été extra, rassurant, jeu au pied propre, dans les airs, évidemment, grâce à sa taille, c'est évidemment un bon gardien pour ça. Ensuite, moi, j'ai bien aimé Villette, parce que je trouve qu'il a des qualités individuelles. Je l'ai trouvé actif dans ses appels, et c'est précis, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais il était présent à la lecture de jeu, et ses appels étaient bons. Alors, même s'il n'a pas eu gain de cause avec ses appels, j'ai trouvé qu'il avait quand même un jeu sans ballon intéressant. Parfois, je me suis posée un peu dessus et j'ai trouvé qu'il courait, qu'il appelait. Et bon, il n'y avait rien qui se passait, mais quand même, j'ai trouvé bien pour ça. Ensuite, Audru, oui, tout à fait, dans la réalisation. Je pense qu'il pourrait beaucoup mieux faire. Il a beaucoup de déchets. Bon, on voit un joueur qui est capable d'orienter le jeu et de mieux faire. Et je trouve qu'il ne s'est pas caché. Il a pris des responsabilités sur les corners. Je crois qu'il a taper un corner, il me semble, ou un coup de franc, je ne sais plus. Mais j'ai trouvé qu'il avait pris des responsabilités un petit peu. Ensuite, j'ai trouvé que Kétondé était pas, qu'il se débarrassait beaucoup de ballons. J'ai trouvé ça bizarre, parce qu'on nous l'avait vendu comme quelqu'un d'entreprenant. Je suis un peu déçue par Irles. Je ne comprends pas pourquoi je vais revenir encore reparler du passé, mais pourquoi il refuse de faire jouer Merji, je ne comprends pas. Ça me dépasse, ça me désole. Ensuite, Diop, un peu transparent, je pense, mais il pourrait mieux faire, j'ai trouvé assez percutant. Openda aussi. Alors, Chamal, j'ai trouvé qu'il n'était pas trop là physiquement, parce que je crois qu'il rentre de blessure. Alors, ces courses qui devaient casser des lignes, on ne les a pas trop vues, mais je pense que ça devrait le faire petit à petit. Je pense qu'il va réussir à aller. Il avait peut-être peur de se reblesser sur ce terrain un peu mitigé, là, avec cette pelouse pourrie. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas donné tout ce qu'il avait, et peut-être la trouille de jouer dans ce stade, mais aussi la trouille. Pourquoi, au contraire, ça devrait les galvaniser. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Bien, Seb, c'est vrai que les tops, les flops, on apprend à les connaître, hein, ces joueurs. Donc, évidemment, on n'a pas encore leur prime de la saison. On ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. Donc là, c'est l'instant T. Finalement, ces tops et ces flops, c'est un peu par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on a vu la saison dernière, par exemple, à ce que certains joueurs ont proposé. Donc, on essaye de s'étalonner par rapport à ça. Donc, toi, est-ce que tu as quelques tops, quelques flops sur ce match que tu aurais vu depuis les tribunes ?
C'est marrant parce que sur les flops, je suis raccord. C'est un mix de Cyril et Hélène. Parce que j'aurais rajouté aussi Étondé, moi. Dans toute la liste qu'a fait Cyril, je suis quasiment d'accord sur tout. À part Chamal, je trouve que c'est un peu dur. Mais bon, allez, on n'est pas à un prêt. Et j'aurais rajouté Étondé aussi pour les mêmes raisons que Hélène. Je ne l'ai pas trouvé. J'espère. Enfin, bon, c'est un match, c'est une heure et demie, donc on ne va pas juger, machin. Mais j'espère que c'est pas un. Ça y est, j'ai mangé son nom qui venait d'Amiens. attaquant grand.
Badji.
Voilà. J'espère que c'est pas Badji bis parce que j'ai la différence avec Villette. Tu l'as dit tout à l'heure, Julien. On attendait plus. Mais Villette, avec le ballon dans les pieds et sans le ballon, elle l'a dit, Hélène. Tu vois que ça va. Tu vois que ça va. Avec le ballon dans les pieds, ça va. Et je dis ça va pour être gentil. Et Tondé, j'ai vu quand même des trucs, des contrôles un peu larges, des amortis un peu larges, des passes faciles, pas si faciles que ça. J'ai deux défenseurs devant moi, mais je vais quand même tout droit pour. Enfin bon, voilà, c'est un match, donc je vais pas y sauter dessus à pieds joints de suite. On va attendre un peu. Mais j'espère que c'est vraiment juste un ressenti sur ce match-là vraiment. Donc je l'aurais rajouté lui aussi. Et puis pour finir sur du quand même positif, Van den Abel, je pense que moi l'impression que ça m'a fait. Alors vous, je sais pas, peut-être parce que j'étais dans son dos et que je voyais que lui depuis le virage, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il donne, c'est ouais, le mec il arrive, il est grand, il est costaud. Mais comme notre gardien d'ailleurs, les deux ils ont un peu le même truc. Ils sont grands, bam, ils en imposent. Lui, toujours pareil, hein, sur l'impression de ce match-là, tu sens que le mec, ça peut vite devenir le taulier. Avec le retour aussi d'Arad Griot, je pense que ça va faire du bien. Et notre gardien Extra, pareil, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais le peu qu'il a eu à faire, il a été impeccable. Pas rien, pas de fioritures, pas de chichi, voilà, il l'a fait proprement. Je trouve que c'est assez rassurant. Et je vais quand même rajouter, pour peut-être expliquer certaines choses, ouais, alors, oui, tu disais tout à l'heure, Julien, par rapport, t'as posé la question, ou quelqu'un avait posé la question à Irles sur le maillot des Girondins, est-ce qu'ils ont les épaules, pas les épaules, tout ça. On a dit quelque chose comme ça tout à l'heure. À jouer aux Girondins de Bordeaux en National 2, t'as beau venir de Avranches, de Saint-Malo, qui a failli jouer la montée de qui tu veux, c'est quand même pas pareil. Hélène, je sais pas si t'as dit le public, ça devrait les galvaniser. Oui, ça devrait les galvaniser. T'as dit ça devrait les galvaniser. Mais pour certains joueurs, et ça, on n'est pas dans leur tête, qui sont peut-être un petit peu plus, on va dire, friables mentalement, t'es devant 12 000 personnes. Je ne crois pas qu'il y ait, à part Van den Abel qui a joué à Valenciennes, peut-être il a déjà joué devant 12 000 personnes. Mais dans tout cet effectif-là, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient joué devant plus de 10 000 personnes. Et quand, à un moment donné, tu rates un contrôle, un premier contrôle, tu vas rater ensuite peut-être une première passe facile, et après ensuite derrière, tu vas perdre un ballon qui était imperdable, et bien tu l'as perdu. Je pense, c'est peut-être que moi, hein, mais je pense que psychologiquement, voilà, le public, ça va commencer à machin, à gueuler, à truc. Et si t'es pas costaud mentalement pour supporter ça, et ben oui, ça peut te galvaniser, mais ça peut aussi te foutre dedans. Donc j'espère que ça sera plus, comme le dit Hélène, un côté galvanisant qu'un côté mais il n'y a pas qu'à Bordeaux hein. Regardez dans certains clubs en Ligue 1 il y a des mecs qui sont très bons à, je dis une bêtise moi, à Saint-Étienne, à Rennes, et puis ils vont à Marseille, à Paris, tu sais pas pourquoi, les mecs ils tremblent, ils ont les genoux qui tremblent, alors que l'année dernière et l'année d'avant ils étaient extraordinaires. C'est un petit peu la même chose, donc il va falloir assumer aussi. Porter le maillot des Girondins en N2, faut l'assumer. C'est pas anodin.
Ouais, faut pas que ça se transforme en l'inverse de ce qu'on a connu. C'est-à-dire quand avant ils arrivaient à Bordeaux, c'était le club Med. Maintenant ils arrivent à Bordeaux, il y a la pression du résultat. Et on rappelle quand même que la pression elle est là parce que Gérard Lopez il a dit au tribunal de commerce dans son plan de continuation qu'il y aurait la remontée en N1, donc Ligue 3 l'année prochaine normalement, dès cette saison. Donc ça veut dire que l'obligation de résultat elle est là aujourd'hui. Et pour résumer un petit peu ce que vous avez dit, moi je suis assez d'accord avec vos tops, vos flops. Alors Chamal, moi sur l'instant quand je suis sorti du stade, je l'avais trouvé plutôt intéressant. Donc j'ai pas revu le match, d'habitude je revois un peu les matchs, mais là j'ai pas revu le match, mais c'est vrai que moi je l'ai trouvé intéressant. Alors oui, par moment il peut s'éparpiller un petit peu, oui il manque un peu de physique, mais je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter énormément si il est à son poste, c'est-à-dire il peut être sur un côté ou bien derrière l'attaquant, mais il va falloir qu'il se fixe, en fait. Et là, on ne savait pas trop où il se trouvait. Et encore une fois, ça va faire peut-être partie du plan de ce qu'on va dire par rapport à ce système en 3-4-3 utilisé par Bruno Hirles. Donc, voilà. Sinon, voilà, je suis d'accord avec vous sur Extra. Moi j'aime bien. Hein. J'ai commenté les deux derniers matchs. J'ai commenté le premier match. J'avais commenté le match à Bayonne aussi. Et il m'avait fait très belle impression. Il me fait vraiment une bonne impression, Yann Oxtra. On a l'impression qu'il est solide. Il n'a pas l'air très inquiet au pied, même s'il paraît que ça peut être son point faible. Pour un gars qui fait 2 mètres, il va très vite au sol. Ça, c'est vraiment rassurant. Après, c'est la Nationale 2. Donc, peut-être que par moment, il nous fera des petites cagades. Il ne faudra pas non plus être trop dur avec lui. Et puis, le flop, pour moi, c'est vraiment Ludéric et Tondé. Parce qu'il a perdu trop de ballons. Il n'a pas pesé sur cette défense d'Avranches. Et moi, je reproche ça. Et c'est, d'ailleurs, voilà, c'est un reproche collectif. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas beaucoup pesé. Et je veux qu'ils mettent beaucoup plus d'investissement. Parce qu'il va falloir beaucoup plus d'investissement. Et je pense que d'ailleurs que Bruno Hirles leur a dit aussi. Il va falloir qu'ils en mettent beaucoup plus s'ils veulent garder leur place. Et surtout, permettre au club d'avoir des résultats. Passons à ce système en 3-4-3. Cyril, je voudrais avoir ton avis. Parce que c'est vrai que certains supporters se posent la question de savoir si c'est vraiment le système adéquat pour les Girondins, le système pour pouvoir gagner des matchs, le système qui serait en lien le meilleur avec l'effectif que les Girondins se sont créés pendant ce mercato. Est-ce que oui ou non, ce système doit être amené jusqu'au bout par Bruno Hirles? On a l'impression qu'il est... De toute façon, il est assez borné, hein, Bruno, là, ça c'est clair. Mais on a l'impression qu'il a vraiment envie de réussir avec ce système-là.
Ce système, c'est la nouvelle lubie du foot moderne. C'est-à-dire qu'on repart de derrière, beaucoup d'espace entre les lignes. Le problème, c'est que ça demande une précision technique et des capacités physiques énormes. Et pour ce niveau-là, je suis pas sûr qu'on ait des joueurs adéquats. Mais après, je vois, je comprends ce qui est fait. Récupérer le ballon haut, avoir beaucoup d'espace entre les lignes pour pouvoir jouer et aller de l'avant rapidement, c'est bien. Mais après, moi, ce que j'ai vu des joueurs qui étaient perdus sur le terrain, qui ne savaient pas se positionner, parce que manque d'automatisme, manque de tout ça, et je ne suis pas certain, avec les impératifs de résultats que tu as énoncés il y a quelques minutes, je ne suis pas certain qu'il ait le temps de mettre en place ce jeu-là. Moi, ça me fait peur. Cette composition, elle me fait peur. Moi, je serais reparti sur du classique, parce que, mine de rien, on est dans un championnat semi-professionnel. Donc, même s'il a le temps d'apprendre ce système de jeu, mais je ne suis pas certain qu'il ait les capacités et d'un groupe assez étoffé pour pouvoir gagner avec ce système-là. Alors, je n'ai pas les certitudes, je n'ai pas les compétences de Hirles, et je m'en garde de juger ça. Mais ça me fait peur. Ça, encore une fois, c'est ce sentiment-là que... Ce sentiment qu'on fait fausse route. Moi, je serais reparti sur un système classique qui veuille jouer avec 2 attaquants, très bien. Mais dans ce cas-là, on joue en 4-4-2 avec un milieu resserré. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop d'espace dans notre milieu de terrain. Que ça nous a... On a eu de la chance, d'avoir une mauvaise pelouse. Et 2, je pense, affronter une équipe qui ne sera pas en haut du classement. Qui n'a pas su en profiter. Parce que... Je suis persuadé qu'une bonne équipe aurait pu profiter de nos largesses samedi dernier. Donc, encore une fois, comme l'analyse du match, quoi, mi figue mi raisin. Je sais, j'ai besoin de plus de temps, mais je suis loin d'être convaincu.
Alors, Bruno Hirles est sûrement plus au fait que moi, que Cyril, que Seb ou qu'Hélène ou que tous les débriefeurs qui nous rejoignent. Il est plus compétent, évidemment, là-dessus. Moi, ce que je lui reproche, peut-être à Bruno Hirles, c'est de ne pas s'adapter ou de ne pas essayer de s'adapter. Alors, on est en amateur, on est en National 2, c'est tu l'as dit, Cyril, c'est le semi-professionnel. Bon, on a des joueurs qui sont tous quasiment pros, parce que même s'ils sont en contrat fédéraux, ils sont payés pour jouer au foot toute la journée, donc ils sont pros quasiment. Même, on peut le dire, même si ce n'est pas le nom professionnel, ils sont en contrat fédéraux, donc ils jouent pour gagner de l'argent. Mais c'est vrai que Bruno Hirles, il a ce côté entraîneur professionnel qui, moi, parfois, me dérange. C'est-à-dire que sur le match-là, sur ce match-là, moi, je me suis dit, pourquoi il ne repasse pas à 4 derrière, rajouter un joueur peut-être offensif pour essayer d'aller gagner ce match. Et quand je lui ai posé la question à la fin du match, il dit, moi, pour moi, si on était repassé à 4 derrière, on aurait pu 2 ou 3 buts. C'est ce qu'il m'a dit. Bah, moi, je ne suis pas certain. Hein. Je ne suis pas certain du tout. Alors après, sur ce match-là, là où je peux lui rejoindre, c'est qu'il n'avait pas énormément de choix sur le banc non plus pour pouvoir changer de système. Il avait les deux jeunes, Rizaldos et Noah Ramon. Mais sinon, il n'avait pas de réel choix fort à faire pour faire rentrer un élément déterminant. Mais voilà, moi, c'est ce que je lui ai reproché déjà la saison dernière. Je trouve que Bruno Hirles, il a tendance à mourir avec ses idées. Alors c'est très bien, hein, je veux dire... On peut pas. Moi, j'aime bien. Il sait ce qu'il veut et il va aller là et il va pas en déroger. Mais peut-être qu'en amateur, on a le droit de se dire bon, mais on peut aussi réfléchir à s'adapter parce que on peut tromper un adversaire qui a peut-être pas vu que vous étiez capable de changer comme ça en cours de route. Bon, après, c'est son avis, c'est son choix. Il a raison. Il est compétent. Il a les diplômes. Mais voilà, moi, c'est mon ressenti en tant que entre guillemets supporter et journaliste. Moi, ça me dérange un peu. Toi, Sébastien, ce système-là, est-ce que il te dérange? Est-ce que tu penses qu'il doit continuer ainsi avec ce système? Comment tu le vois?
Alors, pour être clair, je vais poser les bases. J'exagère un peu, mais je suis d'accord. Cyril en a parlé. Pour moi, dans le football, il ne devrait y avoir qu'un seul schéma tactique. C'est un 4-4-2 à plat. Ça a fait ses preuves depuis la nuit des temps. Ça a fonctionné partout où ça a été utilisé. Bon, maintenant, on est dans des époques où les gens, les coachs, les machins, il y a des modes. Rappelez-vous, pendant un moment, alors tu avais le milieu en losange, en triangle, ouais, le sapin de Noël, le VW, vous vous souvenez,
le WM. Mais ça, c'était dans les années 30-40, et je peux te dire que quand d'autres trucs sont arrivés dans les années 50 et 60, ben, les entraîneurs ou les suiveurs disaient « Mais pourquoi ils ne restent pas en WM? C'est vachement mieux. » Bon, après, voilà, ça fait partie de l'évolution de la vie qui fait que beaucoup de systèmes changent, etc. Mais ça, c'est sûr.
Donc voilà, donc après tu l'as dit, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école du coach qui va avoir ça, comme tu dis, ben, il a son Giroud, tu savais, c'était 4-4-2 à plat et pendant 40 ans, il a fait ça. Bon, ben, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais il changeait jamais d'un iota. Et puis tu as.
Après Giroud, il faisait pire, il changeait pas de système, oui. Il faisait tous les jours les mêmes entraînements. T'imagines quand même. Aujourd'hui, un entraîneur, il ferait jamais ça. Tu te rends compte, le gars, il faisait les mêmes entraînements tous les jours. C'était Léon Lasland qui m'avait raconté ça, qui m'avait dit tous les jours, on savait qu'à 9h12, on allait faire ça, quoi. C'est ouf, quand même.
Ouais, tu vois, si t'aimes les surprises,
mais enfin, n'empêche, il a été champion de France avec ça, il a gagné la coupe avec ça, il a été en demi-finale de Coupe d'Europe avec ça.
Et c'est pour ça que je te dis, donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Exactement. Il y a des saisons, il jouait le maintien, et l'année d'après, tu sais pas pourquoi, il faisait Coupe de France, quart de finale de Ligue des Champions, mais il gardait son schéma. Et puis t'en as d'autres qui vont avoir 1, 2, 3, 4 schémas. Alors attention, c'est comme Cyril l'a dit, c'est bien d'avoir plusieurs schémas de jeu, mais faut avoir aussi l'effectif et les joueurs qui les assimilent déjà. Alors comment le dire sans être désobligeant intellectuellement, je sais pas comment dire.
L'intelligence de jeu, de le faire.
C'est pas, on va très franchement, hein, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'assimiler 3-4 schémas de jeu. Il y en a qui sont plus ou moins réceptifs à des choses. Voilà, suivant comment ils ont été formés, suivant comment ils ont été recrutés. Je pense quand même, et c'est là où je vais faire confiance à Hirles et au staff, à la différence de l'année dernière où on a recruté sans avoir quasiment de coach, et de savoir, là on a un coach avec des idées. Donc j'espère que le recrutement a été fait en fonction de ça, c'est-à-dire que les joueurs qui sont venus, je pense que dans la tête du staff, c'était des joueurs qui savaient qu'ils pouvaient s'intégrer à ce système. J'espère que ça a été fait comme ça en tout cas, parce que sinon je vois pas l'intérêt de dire à un coach « mets un truc en place et de prendre des mecs ». Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Si Hirles sait qu'il va faire toute la saison comme ça, j'espère qu'il a pris des joueurs qui, au moins, dans leur quand ils ont signé, on leur a dit ça sera comme ça. Ils ont dit ok, je suis d'accord pour que ce soit comme ça, ou je m'adapterai en fonction, mais il va falloir, parce que comme sinon ça va être compliqué. Et puis après, bah écoute, il faut pas oublier qu'on a beaucoup d'absents encore. Tu rajoutes bon, Griot va revenir, il c'était juste une suspension. Tu rajoutes Bass, ça potentiellement, j'en reparlais déjà tout à l'heure, hein, mais potentiellement t'as Merdi et Beugré qui seront encore là, oui. Potentiellement, je dis bien. Oui. Donc ça va t'apporter aussi d'autres solutions offensivement et au milieu. Donc je pense pas que Irles il soit fou. S'il voit que ça marche pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, au bout d'un moment, je pense que de lui-même, peut-être, il sera amené à changer. Je sais pas, hein, je le connais pas. Tu le connais mieux que nous, puisque tu peux lui parler à la fin des matchs et l'interroger. Ouais, donc tu sais
mais
peut-être mieux
c'est que ce que je te disais, c'est que moi je trouve qu'il est un peu, il est un peu borné, Bruno Irles, mais dans le bon côté. Hein, ça veut pas dire du mauvais côté, mais. Voilà, je trouve que par moment, je le trouve un peu borné. Je trouve que de temps en temps, il faut savoir s'adapter, il faut savoir surprendre l'adversaire aussi. Oui, Cyril.
Mais moi, ça me fait peur ce que dit Seb, parce que 5-6 matchs, on ne les a pas, ces matchs-là. Surtout quand on voit notre calendrier. On reçoit énormément ce début de saison. C'est-à-dire qu'il faut absolument marquer beaucoup de points pour tenir cet objectif qui a été annoncé, devant le tribunal. C'est la montée. On est dans l'obligation de monter. C'est-à-dire que pour moi,
L'année dernière, on a commencé avec 4 journées de retard et on avait 13 points de retard sur le premier. Attends. Et on avait 13 points de retard sur le premier en décembre et ça ne nous a pas empêché d'aller chercher la première place. Donc, tu peux, évidemment, je ne vais pas te dire que je serais content si on perd les 4 matchs sur les 5 premiers, évidemment. Je ne vais pas te dire ça. Ce que je veux te dire, c'est que, au vu de ce qui s'est passé l'an dernier, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire d'avoir 4, 5, 6, 7 points même de retard un mois et demi.
C'est pas pareil que de faire 5-6 contre-performances pour enfin réussir à gagner un match en 3-4-3.
Bien.
Bah, si on doit en passer par là pour qu'après ça fonctionne sur 10-15 matchs, je ne sais pas.
Tu veux mon avis, Seb, si dans 5-6 matchs, on n'a toujours pas gagné un match, Irles, il est viré.
Ah oui, à ce point. Déjà, tu sais que Gérard Lopez s'est vraiment posé la question, il a poussé d'ailleurs très loin la réflexion sur oui ou non continuer avec Bruno Irles. Hein. Ils se sont appelés, ça a beaucoup discuté. À la base, au tout départ, Gérard Lopez souhaitait ne pas continuer avec Bruno Irles, et puis Bruno Irles a convaincu Gérard Lopez que c'était la bonne personne pour aller chercher la montée. Donc il a aussi, Bruno Irles, cette pression du résultat, peut-être plus que la saison dernière. Donc on va voir comment il va évoluer là, ce n'est qu'un premier match. Moi je l'ai trouvé très serein en conférence de presse. Après c'est un homme vraiment charmant, hein, Bruno Irles, franchement, quand on discute en off, c'est une personnalité vraiment très très bien. C'est un homme qui a la tête sur les épaules. Et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une personnalité comme ça aux Girondins de Bordeaux en tant qu'entraîneur. Et ça fait plaisir. Mais maintenant, il faut, moi je parle de l'entraîneur, il faut qu'il réussisse à s'adapter. Sébastien, rapidement, parce qu'on va demander à Hélène ce qu'elle en pense.
Vous en faites pas, il y aura bientôt deux Zerbi de libre.
Ouais, enfin deux Zerbi, il va peut-être réussir à virer Rabiot quand même. Ouais. Hélène.
Eh ben voilà, on le fait venir à Bordeaux, il n'a pas joué encore chez nous.
Bon là, arrêtons de parler de ce club ciel et blanc, on l'a plus avec nous, on n'a pas besoin d'en parler. Hélène, ton avis toi je sais que tu n'es pas très fan de parler tactique, mais cette 3-4-3 là de Bruno Irles, est-ce que tu penses qu'on doit poursuivre, est-ce qu'il doit poursuivre avec ce schéma-là?
Moi, je pense que oui, parce que il faut qu'il reste fidèle à son travail. Je pense, en effet, comme Sébastien l'a souligné, que c'est quelque chose qu'il a dû, en parler, je pense, avec les hommes qu'il a recrutés. Je pense qu'il a vraiment une vision de son jeu au long terme. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Maintenant, il faut beaucoup de travail sur le plan offensif. Ça manque d'animation. C'est pas assez rapide. Manque d'inspiration et d'intensité, évidemment, on le sait, mais il y a quand même les joueurs qui sont capables, moi je les sens tous capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont montré. Et avec les absences de Griot, et ben ça, comme vous le disiez aussi, je pense que ça peut Ça peut la mayonnaise peut prendre, je
ne
pense
pas oublier
que...
qu'il y a le Manaï aussi, qui est pas mal du tout, hein, qui va arriver, qui avait été un des meilleurs passeurs il y a 2 ans de la Ligue 2, de la Nationale, pardon, avec Concarneau, qui va arriver, qui a fait... bon, alors, il a gagné la Kings League, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer en ligne de compte, mais mine de rien, il a gagné la Kings League. Et puis, Najib Cissé, qui est apparemment un défenseur très, très intéressant, dont Bruno Irles compte sur lui. On pourrait avoir une défense. Ouais. Najib Cissé, Vandenabel et Griot, sachant que Drunley n'a pas fait un mauvais match également face à Avranches. Hélène.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs dont on attend encore leur retour. Et les joueurs qu'on a vus samedi, je pense, peuvent faire beaucoup mieux. Ils étaient empruntés et j'espère et je pense que leur façon un peu empruntée de jouer va se décanter petit à petit. Je pense que Irles, il a vraiment son idée sur ce qu'il veut faire avec ses joueurs et les amener à mieux faire.
Alors Hélène, je reste avec toi pour la prochaine question, on va attaquer un nouveau sujet, et justement c'est en lien puisque l'effectif pour jouer tel système ou tel système, bon ben pour l'instant cet effectif, Bruno Irles, il l'a redit aussi en fin de match, il est figé. Tant que les départs de Beugré et de Mergy ne sont pas faits, bon, un petit aparté sur Beugré, Étienne Beugré qui a dit sur les réseaux sociaux que John Williams bloquait les papiers pour son visa de travail pour qu'il puisse revenir en France puisqu'il est parti du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, tout le monde a vu ses entraînements sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup rire, c'est vrai, avec le pneu derrière lui. C'était assez drôle. Mais voilà, Étienne Beugré est coincé. Alors, c'est vraiment des méthodes qui sont pas top. Franchement, c'est le genre de méthode qu'on voulait plus voir au Girondin de Bordeaux. Donc, Étienne Beugré, on l'aime ou on l'aime pas par rapport aux joueurs, mais ce genre de méthode, c'est pas possible. C'est tout ce qu'on veut plus au Girondin de Bordeaux, en fait.
Ouais. Voilà. Je trouve que c'est un manque de respect évident. Voilà. Et quel message
il a répondu, William ?
Non, bah, je pense qu'il répondra pas.
Et quel message il passe dans le vestiaire avec une attitude pareille, les Girondins ? C'est ça, moi, qui me pose question. Alors, il y a des joueurs, ils s'en fichent, mais il y en a d'autres, je suis sûre, qui doivent se poser des questions. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi si je remplis pas le contrat l'année prochaine ? Voilà, c'est quand même des... Moi, je trouve ça très, très limite, la façon dont ils gèrent le problème.
Exactement. Et puis la méthode, tu t'es trompé, t'assumes. Je veux dire, ils sont allés chercher un joueur qui n'a pas mis un pied devant l'autre, qui a marqué 2 buts, qui est payé 10 000 euros par mois et qui n'a rien fait. Vous êtes trompé, vous devez assumer votre erreur. L'erreur, ce n'est pas de le bloquer pour pas qu'il revienne jouer. Ça, ce sont vraiment des méthodes horribles. C'est vraiment des méthodes qu'on ne veut plus voir du tout au Girondin de Bordeaux. Et c'est des méthodes qu'ils sont en train de faire.
Ils veulent le pousser dehors et je trouve ça pas normal du tout.
Donc cet effectif, je disais, il est donc figé. Mais est-ce que toi, tu as un poste, par exemple, où tu penses que Bordeaux n'est pas assez fourni et il faudrait qu'il recrute ?
Peut-être au milieu de terrain, c'est peut-être un peu...
Alors récupérateur, relayeur...
Récupérateur, ouais.
Ok.
Mais bon, on est encore au balbutiement.
Ouais, c'est clair.
Donc, c'est quand même compliqué. De savoir exactement ce qui manque ou pas.
Mais finalement,
en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il manque du liant. Il manque du liant, il manque une cohésion. Ça, c'est sûr, c'est évident.
Exactement. Même si toi, finalement, dans cette question-là, toi, tu verrais bien le retour de Mergy. C'est ce que tu nous disais. Tu disais,
parce que Mergy, je trouve pas ça normal. C'est quand même notre deuxième... C'était notre meilleur buteur pendant toute la saison. Pourquoi écarter ce garçon ? Qu'est-ce qu'il a fait de si énorme pour ne plus faire partie de l'effectif et être écarté comme ça ? Moi, je ne comprends pas. Ça me démonte.
Ouais, ça te
il y a forcément un truc.
Oui, ben, en fait, je vous l'avais déjà dit.
Julien, il a dit, Irles, ce n'est pas un branque. Irles, ce n'est pas un fou.
Je vous avais raconté, je vous ai dit que l'arrivée de Beugré a mis le bazar dans le vestiaire et Yanis Mergy a été un des premiers à vraiment se plaindre auprès notamment de Bruno Irles de plus quasiment jouer alors que Étienne Beugré, et de faire disons qu'on a eu l'impression, je ne sais pas si c'est le cas, mais on a eu l'impression que Bruno Irles faisait plus jouer Étienne Beugré, peut-être en lien avec le salaire, etc. Et que Mergy se sentait lésé par rapport à ça, alors qu'il s'estimait peut-être meilleur qu'Étienne Beugré. Ça n'a pas plu à l'entraîneur qui est Bruno Hurles, qui a quand même, voilà, qui est un chef un peu, hein, qui est un leader, qui n'aime pas qu'on vienne un peu lui expliquer la vie. Et donc, il n'a pas aimé ça. Et donc, c'est ce qui a cassé un petit peu le lien entre les deux hommes. Et donc, oui, Bruno Hurles ne veut plus de ce joueur-là dans son vestiaire.
Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que je pense que chacun a droit à faire des erreurs.
Et à une deuxième chance, oui,
voilà. Et à une deuxième chance, voilà. Et Mergi la mérite amplement, parce que vu ce qu'il a montré...
Après, les deux hommes se parlent, hein, puisque Mergi a fait quelques entraînements. Donc, ça veut dire que les deux hommes se parlent et que Hurles n'est pas contre la personne de Mergi, mais en tout cas, dans le joueur, en tout cas, ne fait plus partie des plans. On va accélérer, les amis, parce qu'on a arrive déjà quasiment aux 10 dernières minutes de l'émission. Seb, toi, est-ce que tu verrais un poste en particulier qu'il faudrait renforcer ?
Eh bien, devant, en attaque, parce que croisons les doigts, touchons du bois. Ça serait un scénario catastrophe, une blessure longue pour Mathieu Villette. On a quoi devant ? On n'a pas grand-chose.
Il y a le jeune Rizaldos, hein, qui semble avoir la confiance de Bruno Hurles, hein, qui ne tarit pas d'éloge sur le jeune. Là.
Oui. Mais est-ce que pour toute une saison montée, et enfin là, on parle de joueur qui va devoir planer à Mergi était à combien 12 et Carole à 10, un truc comme ça, je crois, l'année dernière, ou 9, et enfin,
ouais,
à eux deux, c'était 20 buts, quoi.
Oui,
ou plus que ça. À deux, c'était 20 buts. Bon. Il faut retrouver au moins deux joueurs qui sont capables de passer la barre des 10 buts. Autant Villette l'a fait l'année dernière. Alors attention, pareil, ça aussi, faire une saison à 15 buts, 10 passes D, on en a vu un paquet le faire.
Ouais, et puis c'était à La Roche.
L'année d'après,
c'est toujours pareil, voilà. C'est ce qu'on disait, c'était à La Roche Vendée. C'était à La Roche sur Yon.
Badji à Amiens, il fait 15 buts, 10 pareil, il fait 15 buts, 10 passes D, je crois, quelque chose comme ça.
Mais c'est sûr. Le maillot. Moi, je reste persuadé qu'il va falloir qu'ils augmentent leur niveau.
Devant, autant au milieu et derrière, on a des solutions, on peut interchanger, c'est pas un souci. Mais devant, si t'as pas un mec qui cadre, on va dire, deux frappes sur trois, on va dire deux sur trois pour être gentil, ça va être compliqué. Donc pour moi, oui, devant, c'est là où il faut se renforcer. Il faudrait se renforcer.
Donc on a avec Hélène plutôt Hélène disait du lien et aussi elle aime bien que Mergi soit réintégré. Seb nous dit devant. Cyril, toi tu nous dis quoi ? Où il manque du poids ou il y a des manquements dans l'effectif de Bruno Hurles ?
Pour moi il y a deux postes où ça manque clairement. Donc le milieu de terrain récupérateur comme l'a dit Hélène, pour moi c'est central. Il faut quelqu'un qui sécurise le milieu et qui soit là physiquement, qui gagne des duels. Donc voilà. Après, moi, la grosse interrogation, c'est les côtés. Pour moi, il nous faudrait un polyvalent piston. C'est-à-dire, si Trichard se blesse, comment on fait ? Si Jousselin se blesse, Openda, je ne suis pas certain. Moi, j'ai un latéral polyvalent qui puisse couvrir droite-gauche et un milieu de terrain récupérateur.
Bien, ouais, ça fait quand même encore des solutions à chercher pour Bruno Hurles et pour John Williams. Mais on l'a dit, tant qu'il n'y a pas eu d'avancée sur les éventuels départs d'Étienne Beugré et de Yanis Mergi, pour l'instant, l'effectif est figé. Sachant que moi, personnellement, si j'étais Étienne Beugré, avec ce qui se passe en ce moment, je ne ferais rien pour partir et casser mon contrat. Hein.
Mais il ne veut pas partir. Dans son message, il dit qu'il veut.
Oui, il veut aider le club. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, si ça se trouve, il serait parti si le club ne l'avait pas laissé sans contrat de travail pour revenir. Ça se trouve, il aurait accepté de casser son contrat. Il se trouve qu'ils n'arrivent pas à trouver de club pour lui. Mais en même temps, voilà. Mais le club n'a qu'à assumer ses erreurs. John Williams n'a qu'à assumer ses erreurs en ce qui concerne Étienne Beugré. Et là, il n'assume pas. Oui. Il le laisse loin et il fait une méthode qui n'est pas digne vraiment du club des Girondins de Bordeaux. Et je le redis, j'espère que ça va se décanter parce que c'est plus l'image qu'on veut voir de notre club. Ça fait un moment qu'on le dit que ça, ce genre de choses, c'est plus possible. Et malheureusement, plus les années avancent et plus ça continue. Donc ça commence à être un peu insupportable.
En précisant quand même, on n'a qu'une version de l'histoire, en supposant que tout ça soit évidemment.
Évidemment, puisque alors on n'a pas qu'une on n'a pas qu'un côté de l'histoire, puisque on a appris que le club dit que il y avait un accord, que s'il n'y avait pas de montée, il devait casser son contrat, soi-disant.
Donc, ah oui, c'est vrai ça.
Ouais, mais c'est pas contractuel, c'est un accord, encore une fois.
Oui, voilà, mais ça, si c'est pas écrit dans son contrat, et ben voilà, exactement, ce n'est qu'un accord verbal. Mais ça pareil. Ben voilà, mais ça, c'est pareil. Mais qui fait ça? Je veux dire, à un moment donné.
Le PSG avec les 55 millions de Mbappé, vous vous souvenez?
Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais là, c'est un autre niveau. Mais oui, non, mais c'est sûr.
Bah, oui, dire, mais c'est la même chose.
À
ce niveau-là,
tu fais un contrat, tu sais pas d'où vient le gars. En plus, tu mets gros en mettant 10 000 euros en National 2 sur un joueur comme ça. Bah, tu mets dans le contrat, si pas de montée, contrat cassé. Enfin, je sais pas, mais. Voilà. Bon, après,
il y a peut-être des subtilités.
Ouais, après voilà. Il y a peut-être
6 mois renouvelables par le club.
Il y a peut-être il y a peut-être des subtilités qu'on ne connaît pas après, hein.
Plus si affinité, voilà, ouais. Ça englobe plein de trucs comme ça.
Bien, il nous reste 6-7 minutes, il faut qu'on parle du prochain match parce que c'est Granville quand même, et c'est encore une fois au Stade Atlantique à Bordeaux, la venue de Granville, alors l'US Granvillaise qui à la base était relégué en National 3, qui a pu être repêché par rapport à tout ce qui s'est passé dans le football français, on l'a bien vu cet été, avec de nombreux clubs qui ont été reversés dans différentes divisions en dessous de ce qui était prévu, donc Granville est remonté, et dans notre groupe, et l'US Granvillaise, ils se sont quand même un peu renforcés parce que ils ont travaillé comme s'ils sentaient qu'ils allaient être en National 2, hein. Enfin, ils y croyaient en tout cas à ce maintien et à ce repêchage, et ils ont fait match nul 0-0 face au promu Choré chez eux, un partout d'ailleurs, non, c'est un partout je crois qu'il y a eu, ou 0-0. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est 0-0 à la base qui me venait à l'esprit.
0-0.
Hein, 0-0. Ouais, c'est 0-0 qu'ils ont fait Granville. C'est le prochain adversaire des Girondins de Bordeaux à Bordeaux. Il faut gagner, Hélène. Il faut gagner parce que là, il n'y a plus à tergiverser. Finalement, l'adversaire, on le connaît peu. Il y a eu beaucoup de changements. Mathias Jouan, l'entraîneur là, de cette équipe de Granville, l'a dit. Il vient pour gagner. Donc, ça va nous offrir, j'espère, un match un peu plus ouvert que face à Avranches.
J'espère aussi. C'est vrai qu'il a dit qu'il venait pour gagner. Il a amélioré son staff. Il a un mec qui regarde les vidéos et analyse les matchs des adversaires, notamment. Il a un conseiller sportif qui lui permet un peu de se poser. C'est un entraîneur qui a beaucoup d'espoir pour son équipe. Et voilà. Et je pense qu'ils viennent pour gagner, évidemment. Mais nous, il faut qu'on se
bouge.
Qu'on arrive à voilà, il faut qu'on se bouge, oui, parce que sinon c'est non, il faut vraiment gagner là ce match. Et moi je pense à un petit 1-0, ce serait déjà pas mal. Il faut gagner, impérativement gagner.
Le retour de Griot, Hélène, aussi, qui peut peut-être.
Oui, le retour de Griot, oui, ouais. Tout à fait. Ouais.
Qui peut faire du bien, et puis il sera sûrement capitaine de cette équipe des Girondins de Bordeaux. Cyril, toi, ce match, tu le vois comment face à Granville? Est-ce que tu es inquiet par le fait de. Parce qu'on peut se dire quand même que Bordeaux pourrait rater cette fenêtre quand même. C'est assez incroyable. C'est très peu arrivé, je crois, dans l'histoire du club d'avoir deux matchs pour lancer la saison à domicile. Ce serait quand même terrible de ne pas réussir à prendre 4 points au minimum. De toute façon, ce sera au maximum possible sur ces deux matchs.
Ce serait une catastrophe. On ne va pas se mentir. Deux matchs à domicile, 4 points, pour moi, c'était le minimum. Alors, sans faire offense à Granville, avec les objectifs que nous avons à domicile, malgré le terrain dans un état calamiteux, on ne peut viser autre chose qu'une victoire. Qu'ils viennent pour gagner, c'est très bien. S'il peut nous laisser quelques espaces, ça sera encore mieux. Mais j'ai bien peur qu'en disant qu'il vient chercher la victoire, en fait, il blinde et qu'il vienne chercher le contre et espère sur un contre nous planter un but, comme ça a été fait à moult reprises l'année dernière et les autres années. On a beaucoup d'ambition, on a peut-être trop d'ego. Attention à ça, mais notre position et notre ambition nous obligent à la victoire.
Il n'y a pas
d'autre choix.
Exactement. Sébastien, tu vas avoir le mot de la fin. Il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur ce match de Granville? Qu'est-ce que tu attends de voir de différent?
malheureusement, j'ai peur que Cyril ait... Enfin, j'ai peur qu'il ait raison. Pas parce que j'ai peur que Cyril ait raison, mais parce que dans ce qu'il dit, le coach, il a dit qu'il venait gagner. Pas de souci, mais il n'a pas dit « je viens gagner avec une orgie de jeu ». Comme il dit Cyril, ils peuvent nous attendre 85 minutes à 10 derrière et nous crever sur un contre, pas forcément dans les 10 dernières minutes, même ça. Et tu vois, c'est arrivé combien de fois de se faire avoir comme ça ? Donc moi, j'ai peur de ça. Et parce que malheureusement, en l'état actuel de la préparation et de l'effectif qu'on a et des automatismes, face à un bloc bas, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on a du mal. Maintenant, dans ce que moi j'avais imaginé, parce qu'on dit deux matchs à domicile, mais on peut même dire 3 sur 4, hein, parce qu'en un mois, là, on va te recevoir 3 fois sur 4 journées. Oui. Évidemment que j'avais pas coché 9 points, mais je me suis dit 7, vu l'état de l'équipe, vu. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'au coup d'envoi samedi, il y a un joueur de l'année dernière sur les 11.
Ouais, Driss Richard.
C'était Driss Richard, il y avait que lui. Bon, là, il y en aura 2. Il y a du progrès. Donc, je me disais 7 points à domicile sur 3 matchs. Ça serait déjà pas mal. Donc, donc victoire. Alors, après, la manière, je vais vous le dire très clairement, franchement…
De toute façon, on peut pas faire pire. On peut pas faire pire que ce qu'on a vu là, parce que c'était vraiment une purge. Voilà. On est vraiment sympa.
Lançons la saison.
On est vraiment sympa parce que c'était le premier match de la saison, mais c'était vraiment pas beau quand même.
Exactement.
Ce match
oui, mais il faut tenir compte quand même.
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis. C'était le premier match de la saison. Donc, on va être sympa.
On va pas mentir aux gens. Hein. Les champignons, ils sont toujours là. Hein. Et ils seront toujours là dans 4 jours.
C'est sûr.
La chaleur, moins. Alors, la météo, par contre, elle, pour le coup, risque d'être complètement différente. Et ça serait même carrément l'opposé, pour l'instant, de ce que je vois. De ce qu'on a eu, ça serait limite orage, pluie, enfin des trucs pas
cool, voilà. Mais bon, écoutez,
ils vont pas être sympas non plus pour proposer du jeu, mais bon, c'est comme ça, hein.
Très bien.
Pour s'adapter, mais oui, victoire, oui, pour lancer la saison, voilà, après le tour de Joffre, on verra. Passe la première.
Bon, mais ça fait 1 heure. Merci les débriefeurs, merci Sébastien, merci Cyril et merci Hélène pour cette première de la saison. On est revenu en long, en large et en travers sur cette dernière semaine des Girondins de Bordeaux avant d'attaquer la Nationale 2, évidemment, sur ce match face à Granville qui nous attend ce samedi, un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Forever, sur le 103.3 FM Bordeaux-Libourne, sur le 90.4 sur le bassin d'Arcachon. Je vous rappelle que vous avez également l'application Forever sur tablette et mobile, ainsi que le site internet foreverlaradio.fr. Cette émission podcast, coup franc, vous la retrouvez sur toutes les plateformes en ligne et également sur notre site internet ainsi que sur l'application. Merci d'avoir été fidèles et on se retrouve très prochainement, évidemment, pour un nouveau numéro de votre podcast Coup Franc. Salut !